Maxime Arnaud, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Je vous invite ici en tant que président de la section des jeunes européens France, section de Montpellier.
Exactement.
Ça existe ça, une section montpelliéraine des jeunes européens France.
Ça existe depuis les années 90 et depuis toujours. Parce que...
C'est la première fois que vous venez à FM+.
Ah oui, je serais très j'ai beaucoup d'enthousiasme.
On va essayer de rattraper le temps perdu.
Merci beaucoup.
Alors, les jeunes européens France, en quoi ça consiste ce mouvement ?
C'est un mouvement qui est rattaché au mouvement européen France au niveau national européen depuis 1949. Les jeunes européens, c'est date plutôt des années 90. Et justement, on a deux aspects par rapport à l'association. Il y a d'abord un aspect pédagogique par rapport à l'Europe. C'est justement face à cette montée du nationalisme, de l'euroscepticisme, et du constat que beaucoup de citoyens sont sceptiques par rapport à l'Europe, nous sommes là pour faire de la pédagogie.
Alors comment ça se passe la pédagogie à votre niveau
en
à
fait,
vous
c'est, on
vers
va
les prendre... enfants, vers les adultes. Les adultes aussi ont besoin d'être formés à ça, non ?
Oui, en règle générale, on va promouvoir la construction européenne, faire exactement comprendre aux citoyens pourquoi, qu'est-ce que l'Europe dans leur vie, ce qu'elle fait pour eux, en quoi elle est importante, en quoi elle agit par rapport au droit, par rapport à la communication.
Alors quand vous dites l'Europe, qu'est-ce que vous signifiez quand vous dites l'Europe ?
On parle de l'Union européenne avant tout comme institution, mais c'est surtout l'idéal, c'est bien sûr l'héritage de Jean Monnet, de Robert Schuman, évidemment, cette idée d'Europe qui, hélas... commence à s'amenuire un petit peu aujourd'hui, hélas, avec les circonstances politiques.
Les jeunes européens à Montpellier, ça représente combien de personnes ?
Pour l'instant, on est une quinzaine. Là, justement, je revenais d'une journée d'association à la faculté de droit où nous étions présents et nous avons fait de nouvelles adhésions, normalement, qui devraient arriver. Donc, vous voyez, peut-être pas la faible association, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et comme il y a beaucoup d'étudiants, il peut y avoir du turnover parce que certains partent aller étudier à Lyon, à Paris ou dans d'autres villes. Donc, et certains ne reviennent pas pour des raisons. Voilà. Donc, ça dépend. Tous les adhérents ne sont pas forcément en faculté de droit ou de sciences politiques. Il y a un peu tout, même des professionnels, hein, je le précise. Mais évidemment, les études de droit et sciences politiques, ce sont celles où nous sommes le plus amenés à nous familiariser avec les sujets européens. Et justement, ça fait un bon complément aussi de ce qu'on apprend, évidemment.
Alors, on est jeune européen jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à 35 ans, mais on reste européen toute sa vie, et avec conviction.
Et jeune dans son âme, vous allez me dire.
Oui, exactement.
Voilà. Alors, il y a une section à Montpellier. Où sont les autres sections en France ?
Les autres sections sont surtout dans les grandes villes. Vous avez notamment les sections les plus dynamiques qui font, notamment, je vous en parlerai tout à l'heure, des interventions Europe à l'école, Europe par les jeunes, très dynamiques à Lyon, à Paris. Même à Paris, il y a plusieurs. Il y a Paris Université, il y a Paris Sciences Po, il y a Paris Professionnel. Lyon, vous avez Bordeaux aussi qui marche très bien. Vous avez Dijon, vous avez Nantes, vous avez Marseille, vous avez Bordeaux. Bordeaux, vous avez Toulouse. Donc toutes les grandes villes françaises, nous sommes présents. Après, il y a une antenne qui commençait à se monter un peu à Nîmes et également, nous ne cessons de progresser, hein, c'est-à-dire à l'échelle de la France, nous sommes plus de 5000, je crois. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter, nos interventions dans les établissements scolaires et universitaires ne cessent d'augmenter eux aussi.
En effet, nous parlions tout à l'heure de la pédagogie à l'intention notamment des enfants, nous pouvons commencer par eux. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Vous intervenez dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges ?
Oui, tout à fait. C'est école, collège, lycée. Nous intervenons, bien sûr, nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des bénévoles. Mais en fait, nous intervenons en apportant une approche ludique et pédagogique de l'Europe en complément de ce qu'ils apprennent à l'école. Bien sûr, on adapte ça selon le niveau, que ce soit à l'école primaire. Par exemple, à l'école primaire, on peut davantage mettre l'accent sur... essayer de situer les capitales, voir les différentes cultures. Après, évidemment, on ne va pas parler de droit institutionnel de l'Union européenne dans ces établissements scolaires. On n'est pas là pour faire un cours magistral et pour les perdre, tout simplement.
Alors, vous enseignez plutôt quelque chose de l'ordre du savoir. Est-ce que vous enseignez aussi quelque chose de l'ordre de l'éthique européenne ?
Oui. Beaucoup d'interventions sont surtout sur les valeurs européennes. C'est de connaître l'Union européenne et l'Union européenne, avant tout, ce sont des valeurs et c'est une culture commune. Et c'est ça que nous voulons enseigner aux enfants, parce que, comme vous le savez, en France, il y a une conscience européenne qui commence à s'amenuire. Un sentiment d'appartenance à l'Union européenne qui s'affaiblit. Et c'est dommage parce que c'est justement l'Union européenne qui a porté la construction de l'Europe suite au désastre de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nos aînés se sont battus pour cela. Mmh. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une période de doute, que la mondialisation a chamboulé tous les paramètres, parce que les gens doutent, justement, le nationalisme semble revenir. Et parfois, bon, ce n'est pas complètement le cas. Les historiens vous diront que ce n'est pas complètement le cas, mais sur certains points, nous revenons, j'ai l'impression, un peu comme dans les années 30.
Maxime, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette présidence des Jeunes Européens de Montpellier vous-même ?
J'ai adhéré aux Jeunes Européens à Montpellier dans la deuxième phase de mes études, à partir de ma troisième année de droit, où j'adhère aux Jeunes Européens. Bon, les deux premières années, je préparais un concours, donc je ne pouvais pas, je n'avais pas le temps, hélas. Mais parce que, justement, les programmes d'histoire de terminale m'ont permis de vraiment me familiariser, me faire comprendre les enjeux autour de l'Union Européenne. Et que, justement, pour relever les défis de demain du XXIe siècle, nous avons besoin de l'Union Européenne. Pas telle qu'elle est. C'est pour ça que je
expliquez-nous.
Parce que, certes, nous prônons l'Union Européenne et les valeurs et les idées, mais nous ne sommes pas, si je puis dire, avec beaucoup d'argot, des moutons de l'Union Européenne. Parce que nous sommes critiques de l'Union Européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Nous considérons que, d'un point de vue démocratique, au niveau des institutions, elle ne l'est pas assez. Que les citoyens ne sont pas assez impliqués. Certes, il y a les élections européennes, mais nous considérons que si c'est une grande chose, ce n'est pas suffisant. Notamment, le Parlement européen doit avoir un droit d'initiative parlementaire, par exemple. Il existe aussi, ça a été ouvert par les derniers traités, le droit d'initiative citoyenne européenne, où c'est justement, si vous avez la signature pour un projet de 1 million de citoyens européens de différents pays, vous pouvez soumettre cette proposition à la Commission européenne. Mais justement, la Commission européenne n'est pas obligée d'en tenir compte. Par exemple, sur le traité transatlantique, il y a eu une contestation citoyenne très forte et la Commission européenne n'a pas voulu en tenir compte. Donc voilà, l'Union européenne, il faut l'améliorer telle qu'elle est. Et c'est pour ça qu'elle dysfonctionne aujourd'hui. Parce que nous avons construit l'Europe de la paix, nous avons construit surtout l'Europe économique, le marché intérieur, la monnaie unique dont nous avions impérativement besoin.
Est-ce que vous êtes en train de dire que des fondations sont installées et que maintenant il faut qu'il y ait une plus grande participation citoyenne des pays, de chaque pays?
Oui, c'est que là, nous sommes dans une situation de statu quo au niveau de l'Union européenne. C'est que, comme je vous le disais, nous avons construit l'Europe économiquement, mais sur l'Europe sociale, sur l'Europe écologique, soit ça n'a pas été enclenché sur l'Europe sociale, soit ça ne va pas assez loin, assez vite, et ça ne relève pas les enjeux. Et pourquoi c'est urgent? Parce que sur de nombreuses urgences, l'État national, l'État souverain, ne peut pas en faire face.
Alors là, on est en train de parler d'État, de Parlement, de pays, mais pour un Montpelliérain, l'Europe, comment est-ce que ça peut bien se concrétiser?
Déjà, on rappelle aux citoyens, à juste titre, que beaucoup de projets européens sont financés par des fonds européens. Vous avez bien sûr le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui aide justement des collectivités ou des entreprises à répondre à des projets. Par exemple, vous avez un laboratoire de recherche à Montpellier, je ne sais plus en quelle année, qui a reçu des fonds pour recevoir une machine de recherche. Bon, ce n'est pas mon domaine, donc je ne me rappelle plus du nom exactement. Mais également, le tram de Montpellier, pour le tramway de Montpellier, il me semble qu'il y a eu des subventions aussi de l'Union européenne. Mais après, vous avez aussi le Fonds social européen. Le Fonds social européen, ça aide justement les gens, les jeunes travailleurs, les organismes sociaux, je pense les CFA notamment, à sortir les gens de la précarité et du chômage, à les aider. Parce que l'Union européenne, et c'est surtout l'esprit du FEDER, le Fonds européen de développement régional, c'est de réduire les disparités entre l'Europe. Et il y a un préjugé qui est très répandu et qui est là, c'est complètement faux, c'est oui, on donne du fric à Bruxelles pour qu'on aille le donner aux pays de l'Est, ce qui est faux. Parce que nous, en France, nous recevons beaucoup de fonds européens pour des projets et nous sommes dans les premiers bénéficiaires de la politique agricole commune. Et paradoxalement, vous avez beaucoup d'agriculteurs qui sont contre la politique agricole commune parce qu'au début, elle était moins bien répartie. C'était surtout pour les céréaliers. Et aujourd'hui, on a étendu la gamme, l'assiette des bénéficiaires. Et forcément, vu qu'on partage, ceux qui avaient des droits avant et qui en ont pour moi ne sont pas forcément très contents.
L'actualité européenne, c'est aussi celle des frontières.
Oui.
Des frontières qui sont, on le dit, à la fois perméables, en même temps qui se transforment en des murs entre certains pays. Est-ce qu'il y a une... Quel est votre point de vue par rapport à cette situation-là ?
Eh ben justement, on considère que sur la gestion des flux migratoires et l'immigration en règle générale à l'échelle de l'Union européenne, que là aussi, il y a du travail à faire. Beaucoup de pays se plaignent, l'Italie, la Grèce, « Ah non, mais nous sommes submergés par l'immigration, nous n'arrivons plus à gérer », et d'autres disent « Non, l'Europe, c'est une passoire, on ne peut rien faire ». Il y a un principe en Europe, c'est que, avec notamment l'espace Schengen, mais l'espace Schengen ne recouvre pas toute l'Union, que... On fait disparaître les frontières intérieures, donc plus de droits de douane, vous pouvez voyager en Europe avec seulement une carte d'identité, mais en revanche, les contrôles aux frontières extérieures sont renforcés. Et certes, il existe l'agence Frontex, une certaine police des frontières européennes, mais elle est insuffisante, parce que les États ne veulent pas mettre le budget qu'il faut. Parce que le budget européen est beaucoup trop insuffisant, était en période de diminution. Vous voyez, et même, restons d'un point de vue purement financier, budgétaire pour les États. Il serait sans doute mieux pour les États qu'ils donnent de l'argent à l'Union européenne pour renforcer les frontières extérieures plutôt que de dépenser de l'argent pour gérer les flux migratoires. Parce que évidemment, quand vous renvoyez des immigrés qui n'ont pas de visa en situation irrégulière dans les pays de départ, et ben parfois on paye des billets d'avion. Évidemment, mais c'est normal parce qu'on ne va pas les jeter à la mer ces gens. Ce restent des êtres humains.
Un moment musical européen. Maxime Arnaud, merci d'être avec nous sur FM+, pour évoquer l'Europe du point de vue de la section des jeunes européens à Montpellier, des jeunes européens France à Montpellier, dont vous êtes le président. Alors nous avons évoqué la pensée de l'Europe, toute cette richesse de cette institution créée au lendemain de la guerre. Vous avez aussi déploré combien elle était absente finalement de nos préoccupations.
Complètement. C'est que justement, les gens, on remarque qu'on fait des actions de rue, qu'on va leur compte des citoyens. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'Europe. Donc, bien sûr, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous vous méfiez de lui. Et ça se ressent dans les résultats des votes aux élections européennes, que je ne commenterai pas. Et également, vous avez beaucoup de préjugés qui font que, voilà, par exemple, les préjugés qu'on peut entendre... l'Europe, ce ne sont que des technocrates, ils ne font rien pour nous, ils prennent l'argent pour qu'on les envoie au pays de l'Est. L'euro, on n'a plus de souveraineté, l'euro également nous appauvrit. Voilà, vous avez beaucoup de préjugés comme ça qui circulent un peu partout.
Et votre intention, c'est justement d'avoir une pédagogie pour casser ces préjugés et accéder à la connaissance de ce fonctionnement qui serait... au bénéfice de tous.
Exactement. Mais je veux dire une chose, il y a un grave problème en France, c'est un paradoxe énorme, c'est que nous sommes l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, et pourtant le discours politique sur l'Europe est absent ou complètement défaillant. Bon, bien sûr, je ne vais pas parler des partis anti-européens, mais sur les partis, classiquement, les deux grands partis de notre pays que sont les Républicains et le Parti Socialiste, ce sont sur le papier des partis qui sont pro-européens, mais qui pourtant, dans le discours, je suis désolé de le dire, sont europhobes. Pourquoi ? Parce que, premièrement, ils ne parlent pas assez d'Europe, ils ne parlent pas des enjeux. Je vais vous donner un exemple, les élections en 2014 européennes avaient lieu le 25 mai. François Hollande, le président de la République, n'a commencé à parler des enjeux seulement le 8 mai. C'est beaucoup trop tard pour que les gens puissent s'y intéresser. On ne donne pas assez aux citoyens, on ne donne pas les éléments de réflexion nécessaires pour voter en bonne conscience.
Il s'agit encore là d'une pédagogie qui n'est pas faite par les hommes politiques cette
Complètement.
Fois-ci.
Moi, je considère que les hommes politiques sont en partie responsables de cette montée de l'euroscepticisme en France.
À bon entendeur, salut. C'est ça, que chacun écoute hein, et prenne sa part. Maxime, il y a aussi, au-delà de cette histoire, de ce manque de connaissances de la part de nous tous, qui n'est une connaissance qui n'est pas relayée par nos hommes politiques, qui pourraient quand même être des vecteurs de ce savoir, il y a de l'actualité européenne qui va nous toucher au premier chef. Quels sont nous avons évoqué l'accord du libre-échange du CETA et la Commission européenne qui a pris une décision importante.
Non, la décision n'est pas encore prise. C'est les parlementaires européens, je ne sais pas exactement qui, parce qu'ils se battent, parce qu'ils sont fiers de leur idée, ont fait une proposition. C'est justement pour permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures, mais aussi de favoriser les déplacements à faible émission de gaz à effet de serre. Ils ont proposé un pass Interrail, qui existe aujourd'hui hein, déjà, à peu près 300 000 personnes en profitent par an à peu près, et le prix moyen c'est 480 euros. Et donc ils veulent faire... Pour les jeunes européens
moins qui de 26
fêtent,
ans alors
non qui fêtent non qui les jeunes en Europe qui fêtent leurs 18 ans on leur offrirait pendant un mois je sais plus si c'est un mois ou un an
c'est différent
oui pendant un mois pardon excusez-moi oui
pendant les vacances
un pass intérêt gratuit de un mois pour tous les jeunes européens qui sont compris dans le système Interrail. Voilà, donc comme ça permet aux jeunes de leur faire découvrir l'Europe à bas coût.
C'est ça.
Justement, donc moi
sans frais de transport, uniquement des frais d'hébergement.
Oui, exactement. Donc voilà, donc c'est pour moi c'est bien sûr c'est une occasion en plus d'Erasmus de faire découvrir l'Europe et de nouvelles cultures aux jeunes. Mais aux arguments que présente la Commission, je rajouterai un, c'est aussi une question de réduction des inégalités, parce que en France, vous avez un jeune sur quatre qui n'a pas la chance forcément de partir en vacances. Et justement, ça peut être une opportunité pour lui aussi. Vous voyez, il y a aussi un aspect social dans cette mesure qui, je pense, est bénéfique. Mais c'est surtout aussi, ça m'intéresse à l'échelle de l'Europe, pour réanimer justement cet élan d'esprit européen et faire prendre conscience aux jeunes et améliorer le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Alors justement, donc, la Commission, notamment par sa commissaire la commissaire européenne au transport, Violeta Bulc, a dit qu'elle était enthousiasmée par cette idée. Et justement, la Commission va étudier les coûts potentiels, les sources de financement et la faisabilité administrative du projet. Mais en tout cas, la Commission européenne est vraiment très favorable à ce projet. Et justement, je vais vous prendre deux interventions au Parlement européen, notamment d'une part Rebecca Harms, du groupe Vert Alliance Libre Européenne, qui a dit que c'était une idée fantastique qui permettra un coût relativement faible, d'aider les peuples à mieux se comprendre, par exemple.
Nous le souhaitons. Donc ce serait une décision certainement qui serait prise avant l'été prochain.
Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas dans la commission, je ne suis pas ministre, moi je ne peux pas vous le dire.
C'est ça. Mais les délais sont plutôt longs, non, dans ces prises de décision?
Bah là, il faut qu'il, comme je vous l'ai dit, il faut qu'ils étudient la faisabilité du projet. Donc je crois que, je ne sais plus quand ils l'espèrent, peut-être en 2018, je ne sais plus. À voir, mais c'est pas pour tout de suite, mais ça reviendra au goût du jour. C'est déjà une première discussion qui est très fructueuse au début.
Absolument.
Fructueuse, pardon.
Le deuxième point d'actualité que vous vouliez évoquer ici, Maxime Arnaud, quel est-il ?
Oui, en effet, il y a eu beaucoup de rebondissements au mois d'octobre sur l'accord commercial appelé le CETA, qui est un accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. L'opinion publique s'est surtout intéressée au traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, qui justement connaît une forte opposition citoyenne et beaucoup de contestations. Et justement, beaucoup de citoyens pensent que le CETA, c'est le petit-fils, le fils du traité TAFTA. Et justement, qu'est-ce que c'est le CETA ? C'est un accord de libre-échange qui est négocié depuis 7-8 ans déjà par la Commission avec le Canada, qui a pour objectif, vu que c'est de libre-échange, d'augmenter la croissance par l'augmentation des exportations. Donc en gros, rapidement, les moyens, ce serait par supprimer les droits de douane, ou ouvrir les marchés publics canadiens aux entreprises européennes, renforcer la coopération en matière de réglementation, protéger les innovations artistes, produits traditionnels européens. Sur le papier. Voilà, donc en août 2014, il y avait une dernière phase de négociation entre la Commission européenne et le Canada. Et en juillet 2016, la Commission a adopté trois textes dont elle va proposer la signature au Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire le Conseil des ministres européens du commerce. Et justement, après cela, ça nécessitera une approbation du Parlement européen et aussi des États membres. Mais il y a un gros mais. C'est que le 27 octobre est prévue la signature du traité entre l'Union européenne et le Canada, sauf qu'il y a beaucoup d'opposition par les États membres. Il y a un scepticisme européen sur ce traité. Par exemple, déjà, là, c'est tombé hier, la région de Wallonie, en Belgique, refuse de ratifier. Et justement, parce qu'elle s'est prononcée, parce que ce sont les différents parlements régionaux et nationaux qui doivent se prononcer, et le Parlement wallon est opposé. Et donc, la Belgique, constitutionnellement, doit s'y opposer. L'Allemagne aussi est très sceptique parce qu'elle a peur que son agriculture traditionnelle soit menacée par ce traité.
Chacun voit ses petits intérêts.
Voilà. Et autre, par exemple, la Roumanie et la Bulgarie refusent cet accord si il n'y a pas une libéralisation des visas pour leurs ressortissants, justement, au Canada.
Mais là, vous pointez, c'est vrai, la complexité de l'Europe dans la gestion de pays qui sont tellement divers.
Oui, justement, mais vu ce qu'on a fait par rapport à la construction européenne, ça demande plus d'énergie intellectuelle et d'avoir une culture du compromis. Tout simplement, on ne peut pas, dans la vie de tous les jours, on ne construit pas un projet tout seul, à part si on fait du stalinisme.
Mais on peut construire un projet à 3, c'est plus facile qu'à 12.
Tout à fait, mais après c'est pour ça qu'il faut adapter, c'est-à-dire ne pas prendre, comme les autres organisations internationales, le régime de l'unanimité, mais prendre le régime de la majorité, majorité simple ou majorité qualifiée. Je ne vais pas rentrer dans le détail du droit de l'Union européenne, mais c'est déjà le cas.
On y reviendra, parce que vous viendrez régulièrement chez nous.
Ah bah, j'y compte bien,
maintenant,
oui.
Vous avez trouvé le chemin.
Oui, j'y compte bien.
Et je vous laisse continuer.
Oui, et par rapport à la France, c'est surtout au niveau du Parlement national qu'il y a eu des gros problèmes. Car justement, les parlementaires ont appris qu'il y aurait une application provisoire de l'accord, dès sa signature, avant la ratification par les États membres. Donc ça pose vraiment un problème démocratique. Et justement, le Parlement en France, les parlementaires se sont saisis de cela. Et justement, à l'Assemblée nationale, une motion devait être votée par la Commission des Affaires européennes pour s'opposer à cela. Et apparemment, je ne sais pas si l'État, notamment le secrétariat au commerce de Mathias Fekel, subit des pressions de la Commission ou si il le fait ça en toute conscience. Mais justement, quatre députés ont été démissionnés d'office de la Commission des Affaires européennes le 5 octobre, jour du vote justement de la résolution réclamant le report de l'application du CETA. Donc, à mon avis, c'est qu'il y a la pression. Donc, justement, je me suis bien intéressé là-dessus.
Ouais.
Et voilà, il y a des choses pas claires.
Pas claires.
Et justement,
tout.
Nous, en tant que jeunes Européens, nous sommes là pour dénoncer cela.
Ouais.
Et justement, on avait le même problème par rapport au traité transatlantique. C'est que l'association a condamné la forme parce que les négociations étaient très opaques. On ne disait rien à la société civile, il n'y avait aucune communication. Après, sur le fond, vu que nous sommes transpartisans, et que nous ne sommes rattachés à aucun parti politique et que les idées politiques sont très diverses.
Donc ça, c'est une idée importante à signaler.
Oui, c'est très important et j'insiste parce que c'est la condition sine qua non de notre efficacité et de notre crédibilité, le caractère transpartisan de notre association. Donc certains sujets, bien sûr, qui sont très polémiques, nous ne pouvons pas nous prononcer dessus, notamment sur le fond du traité TAFTA. Mais sur la forme, nous avons condamné, et sur le CETA également. Mmh. Parce que ça, ce n'est pas normal. Le traité de Lisbonne a été fait pour notamment donner plus de pouvoir aux parlements nationaux, qu'ils soient beaucoup plus impliqués dans la prise de décision européenne. Ce genre de comportement n'est tout simplement pas acceptable.
Pas acceptable parce que pas transparent, parce que pas clair, pas accessible à tous les citoyens.
Oui, et même ce genre de manœuvre qui s'est passé dans la Commission des Affaires européennes est inacceptable.
Vous avez du travail, Maxime.
Mais c'est pour ça que je suis dans cette association. Nous avons beaucoup de travail.
Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention, pour cette première intervention sur nos antennes.
Je vous remercie.
Vous serez le bienvenu au moins une fois par mois. Nous verrons à petit quels seront les sujets abordés. En tout cas, merci.
Merci beaucoup.